à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du jeudi 2 août 2018. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Au Mali, ça devrait être officiel dans la soirée, mais on s'achemine vers un second tour de la présidentielle. Au Zimbabwe, l'armée se déploie dans les rues pour empêcher toute manifestation de l'opposition, alors que le pays attend toujours la publication des résultats. République démocratique du Congo, le ministre de la Santé était à Beni, dans l'est du pays, où une épidémie d'Ebola s'est déclarée une semaine après la fin de celle qui avait sévi dans l'Équateur. La présence russe en Centrafrique interroge de plus en plus après la mort de 3 journalistes russes.
L'administration a complètement disparu de la Centrafrique, donc c'est maintenant un territoire à prendre. Et l'arrivée des Russes illustre ça.
Analyse dans la partie magazine. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Mali, les résultats de la présidentielle seront connus dans la soirée et on s'achemine vers un second tour, selon les informations du correspondant de VOA Afrique qui se trouve en ce moment au ministère de l'administration territoriale. Depuis dimanche, certains s'interrogent sur la lenteur de la publication des résultats. Mais ce jeudi, la commission de centralisation des résultats a fini son travail, comme l'a constaté notre correspondant Kassim Traoré, qui nous en dit plus.
Ce sont des tas d'enveloppes venant de tous les cercles du pays qui jonchaient les tables des membres de la commission de centralisation. Un travail minutieux et complexe, d'où la mise en place de 3 sous-commissions pour le traitement des résultats. Le tout devrait être compilé, faire un classement par cercle. C'était la mission confiée à la Commission nationale de centralisation, basée au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Plusieurs difficultés ont été rencontrées selon un membre de cette commission. D'abord, il y a le fait que les agents électoraux au niveau des régions n'ont pas de niveau, des écritures illisibles. Face à certains cas, faute de consensus, ils ont décidé de laisser le soin à la Cour constitutionnelle de trancher par rapport à des bulletins nuls. En tout cas, c'est sur la base du travail effectué par cette commission que tout le monde a compris qu'il y a un second tour qui se dessine déjà dans les états-majors des partis politiques. Des tractations sont en cours afin de louer des alliances pour le second tour prévu le 12 août prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Par ailleurs, Renouveau FM, la radio qui diffuse les chroniques de l'activiste Ras Bat, très influent auprès de la jeunesse malienne, a été fermée ce jeudi sur ordre du gouverneur de Bamako. Autre présidentiel dans l'actualité, on passe au Zimbabwe. À Harare, au lendemain d'une répression meurtrière contre l'opposition, l'armée patrouille dans les rues de la capitale du Zimbabwe, alors que le pays attend toujours la publication des résultats de la présidentielle. Un dernier bilan communiqué aujourd'hui par la police fait état de 6 morts. Nicolas Pino.
La commission électorale a exhorté ce jeudi la population à faire preuve de patience, annonçant que les résultats pourraient être communiqués dès 20h, temps universel. De son côté, le président Emmerson Mnangagwa a appelé à l'apaisement et à résoudre, je cite, « pacifiquement les différends avec l'opposition », précisant avoir été en discussion avec son chef Nelson Chamisa pour tenter de désamorcer la crise. Selon les sources jointes par VOA Afrique sur place, 8 leaders de l'opposition sont déjà entrés en clandestinité avant la publication de ces résultats et la police a déjà bouclé le siège du MDC, le principal parti d'opposition. Beaucoup craignent un hold-up électoral en faveur de Mnangagwa et du parti au pouvoir, la ZANU-PF, déjà annoncé vainqueur à la majorité absolue des législatives, ce que dénonce l'opposition qui crie à la fraude. La communauté internationale s'inquiète de ces tensions post-électorales. Le Commonwealth a catégoriquement dénoncé l'usage excessif de la force contre des civils non armés et demandé à la commission électorale d'annoncer sans plus attendre tous les résultats des élections. Dès mercredi soir, le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, et les États-Unis avaient appelé Harare à la retenue.
L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a déposé sa candidature à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Il s'est rendu aujourd'hui à la commission électorale de Kinshasa. Jean-Pierre Bemba est rentré hier en RDC, une semaine avant la date butoir pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Il vient de passer 10 ans dans les prisons de la Cour pénale internationale avant d'être acquitté en juin. Le président congolais Joseph Kabila, lui, est arrivé ce jeudi à Luanda pour une visite de 2 jours à l'invitation de son homologue angolais João Lourenço. Fin mai, après une rencontre avec le président français Emmanuel Macron, le président Lourenço avait invité le président Kabila à respecter les accords qui prévoient la tenue d'élections en RDC le 23 décembre sans sa participation. Mais l'ambassadeur congolais à Luanda a nié tout malentendu entre les deux pays. Et puis, restons au Congo, où le ministre de la Santé s'est rendu à Beni, dans l'est de la RDC, touché par une nouvelle épidémie d'Ebola, avec déjà 20 décès probables ces dernières semaines. Bagasikoura.
Le ministre et sa délégation sont arrivés à Beni pour organiser la riposte contre la maladie à virus Ebola dans cette ville déjà sous la menace d'un groupe armé virulent. Le ministre Oli Ilunga avait indiqué la veille que la RDC faisait face à une nouvelle épidémie de cette fièvre hémorragique, une semaine à peine après avoir annoncé la fin d'une précédente épidémie dans le nord-ouest du pays. La province du Nord Kivu a notifié samedi au ministère de la Santé 26 cas de fièvre avec des signes hémorragiques, dont 20 décès, avait indiqué le ministre sans préciser la date des décès, ni s'il s'agissait de cas avérés ou suspects d'Ebola. La précédente épidémie avait fait 33 morts dans une région du nord-ouest de la RDC. À ce stade, rien n'indique que ces deux épidémies séparées de plus de 2500 km soient liées, selon le communiqué ministériel.
Un récit de Dilidico. L'opposition togolaise n'est pas satisfaite des recommandations formulées par les chefs d'État de la CEDEAO pour sortir de la crise politique. Au terme de leur sommet d'hier consacré à la crise togolaise, les dirigeants ouest-africains ont notamment plaidé pour la tenue d'élections législatives d'ici à la fin de l'année, ce que rejette en bloc la coalition de 14 partis politiques de l'opposition, car ils redoutent des fraudes. Et dans un communiqué, l'opposition dénonce l'absence de l'évocation d'un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes institutionnelles et électorales, ainsi que la question sécuritaire. En Côte d'Ivoire, le maire du plateau révoqué pour détournement a rejeté ces accusations. Noël Akossi Benjo dénonce une dérive totalitaire du régime. Et puis le président nigérian Muhammadu Buhari part demain à Londres pour 10 jours pour ses congés annuels, a indiqué son porte-parole. L'an dernier, le président Buhari avait passé plus de 5 mois pour soigner une maladie non dévoilée, suscitant des appels à la démission lancés par certains de ses critiques. La présidence nigériane ne dit pas s'il va voir son médecin à Londres ou pas.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François a inscrit pour la première fois dans le catéchisme de l'Église catholique une opposition catégorique à la peine de mort. Il a appelé l'Église à s'engager pour abolir partout dans le monde la peine de mort. Pour le souverain pontife, l'exécution d'un être humain ne rend pas justice aux victimes, mais attise la vengeance. Israël a de nouveau bloqué ce jeudi l'approvisionnement en carburant de la bande de Gaza en réponse aux cerfs-volants incendiaires lancés depuis ce territoire palestinien, soumis depuis plus de 10 ans à un sévère blocus. Cette mesure risque d'accentuer les coupures d'électricité, notamment pour les hôpitaux, ce qui met en danger la vie des malades, selon les Nations Unies. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Kuala Lumpur, première étape d'une mini-tournée en Asie du Sud-Est, au cours de laquelle il mettra l'accent sur le dossier nucléaire nord-coréen. Michel Joseph.
Le chef de la diplomatie des États-Unis doit rencontrer demain le premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, 93 ans. Une étape importante à Kuala Lumpur, où pour la première fois dans l'histoire de la Malaisie, une élection a été remportée par une coalition d'opposition. Le secrétaire d'État se rendra ensuite à Singapour pour participer à plusieurs réunions régionales, puis en Indonésie. À Singapour, Mike Pompeo doit demander aux pays de la région de continuer à mettre en œuvre les sanctions internationales contre la Corée du Nord tant qu'elle n'aura pas abandonné ses armes atomiques. La Russie et la Chine, auxquelles les États-Unis reprochent d'avoir relâché la pression sur Pyongyang, seront aussi présentes dans ces réunions de l'ASEAN. Le département d'État n'a pas exclu une rencontre avec son homologue nord-coréen Ri Yong-ho en marge du rendez-vous de Singapour, mais une telle réunion n'est pas encore prévue à ce stade. Au cours de cette mini-tournée, le ministre américain des Affaires étrangères entend défendre la vision américaine pour la région Indo-Pacifique que Washington souhaite libre et ouverte. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis devraient également être au menu des discussions au moment où l'administration Trump menace de taxer encore davantage les marchandises chinoises.
Des organisations de la société civile américaine ont lancé des poursuites contre le président Donald Trump et des responsables de son administration. Elles les accusent d'avoir soumis plus d'un millier d'immigrés clandestins à des conditions de détention, je cite, inhumaines en Californie. L'Organisation de défense des droits civiques ACLU et Prison Law Office déclarent dans leur plainte que depuis le 8 juin, des personnes ont été emprisonnées dans des centres fédéraux de détention en violation de leurs droits constitutionnels. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'actualité économique. C'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerakiza.
Le FMI verse 100 millions de dollars au Gabon pour contenir le poids de la masse salariale et d'autres dépenses non prioritaires. Il est aussi prévu d'éliminer un grand nombre d'agences semi-gouvernementales et de renforcer le contrôle des organismes publics pour améliorer la transparence et l'utilisation des fonds publics. D'après le FMI, la reprise macroéconomique demeure fragile, à cause notamment des dérapages budgétaires fin 2017 et début 2018. Les Nations Unies vont accorder au Rwanda 630 millions de dollars sur 5 ans pour des projets de développement. Ces fonds serviront à appuyer la transformation économique, la transformation sociale et la gouvernance. Kigali veut créer quelque 1,5 million d'emplois décents, accélérer l'urbanisation, promouvoir le développement industriel et améliorer le rendement de l'agriculture et de l'élevage. Conflit commercial, la Chine a dénoncé un chantage américain à la suite de la menace de l'administration Trump de taxer encore davantage les marchandises chinoises. La Maison-Blanche accuse Pékin de pratiques déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Washington veut que Pékin réduise de 200 milliards de dollars son excédent commercial annuel avec les États-Unis et d'ouvrir davantage son marché aux biens américains. Les discussions entre les deux puissances restent au point mort. Pékin se dit être ouverte à un dialogue fondé sur le respect mutuel et appelle Washington à revenir à la raison.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Les pharaons d'Égypte ont un nouveau sélectionneur.
Oui, le Mexicain Javier Aguirre, 59 ans, a été nommé sélectionneur des pharaons pour 4 ans en remplacement d'Hector Cooper, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'échec au Mondial 2018. Ancien international mexicain, 59 sélections, Aguirre a disputé 2 Coupes du Monde comme joueur et 2 comme sélectionneur en 2002 et 2010, atteignant toutes les deux fois les 8e de finale. Sa dernière expérience d'entraîneur remonte à la période 2015-2017 à la tête de l'équipe émiratie d'Al-Wada. C'est la première fois que le technicien mexicain travaillera en Afrique.
L'Algérie aussi tient son nouvel entraîneur.
Djamel Belmadi est le nouveau sélectionneur des Fenech. L'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Algérie va signer un contrat qui le liera à la Fédération algérienne de football jusqu'à la Coupe du Monde Qatar 2022, d'après le communiqué de la FAF. Il succède à Rabah Madjé, limogé en juin après seulement 8 mois. L'Algérie a usé 5 sélectionneurs en 3 ans depuis le départ de Vahid Ali Lodzic après l'élimination des Fenech en 8e de finale du Mondial 2014, le meilleur parcours de leur histoire.
Clap de fin pour Moussa Sow en équipe nationale du Sénégal.
International sénégalais depuis août 2009, l'attaquant de 32 ans a annoncé sa retraite internationale. Le buteur du Shabab Al Ahly a été sélectionné pour la Coupe du Monde 2018, mais il n'a pas disputé la moindre minute en Russie. 6e meilleur buteur de l'histoire des Lions de la Teranga, l'ancien Lillois s'en va sur un bilan de 47 caps et 19 buts. Moussa Sow a pris part au CAN 2012, 2015 et 2017 avec son pays.
Championnat d'Afrique d'athlétisme, Djemal Mekonnen a remporté l'or dans l'épreuve des 10 000 mètres.
L'Éthiopien a remporté l'or sur 10 000 mètres en 29 minutes 9 secondes 17 centièmes. Il avait pris la 4e place en 2016 en Afrique du Sud. Son compatriote Adam Lac Beliou Berta est monté sur la 2e marche du podium. L'Ougandais Timothy Toroitich, finaliste lors des mondiaux de Pékin en 2015, a complété le podium. Rappelons que le coup d'envoi des 21e championnats d'Afrique d'athlétisme a été donné hier au nouveau stade Stéphane Keshi d'Assaba. Après quelques difficultés notées dans le transport des délégations de Lagos à cette ville du Delta, où se tiennent les compétitions qui vont se poursuivre jusqu'à dimanche.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et on passe au dossier du jour. En Centrafrique, l'assassinat de 3 journalistes russes continue de susciter des interrogations. Au-delà de ce fait divers, c'est la présence russe dans le pays qui interroge, puisque des militaires russes assurent déjà la protection du président Touadéra et qu'une société de sécurité opère aussi en Centrafrique, y compris dans les territoires tenus par des groupes rebelles. Nicolas Pinault a joint Thierry Vircoulon, enseignant à Sciences Po et chercheur à l'Institut français des relations internationales.
C'est vrai qu'il y a une société de sécurité russe qui opère en Centrafrique, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Le fait qu'ils soient retrouvés morts alors qu'ils investiguaient cette société est en effet surprenant. Sur le fait qu'ils auraient été tués par des hommes enturbanés, c'est assez flou, on peut le dire.
Globalement, cela repose de la question de la présence des Russes en Centrafrique ces derniers mois.
Oui, tout à fait, on les voit partout, à Bangui, en centre-ville, mais on les voit aussi dans la partie rebelle du pays, qui est contrôlée par la Seleka, où ils se sont installés à au moins 2 endroits. Officiellement, ils forment l'armée centrafricaine. Ils fournissent aussi la sécurité rapprochée du président Touadéra. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font en zone rebelle? Ils sont installés dans des zones très connues, où il y a beaucoup de mines artisanales d'or et de diamants. Ils souhaitent probablement s'impliquer dans ce business qui se trouve précisément en zone rebelle. Et c'est probablement pour ça que le gouvernement russe a tenté de monter une médiation à Khartoum début juillet entre le gouvernement centrafricain et les seigneurs de guerre de l'ex-Seleka.
Aujourd'hui, concrètement, quelle zone du pays est contrôlée par le pouvoir central de Faustin Archange Touadéra?
J'aurais tendance à dire que rien n'est contrôlé par le gouvernement centrafricain. En fait, les zones où il y a une présence de la MINUSCA, donc c'est Bangui, évidemment, la capitale, et c'est certaines provinces de l'ouest du pays qui sont calmes. Le fait qu'elles soient calmes ne veut pas dire qu'elles sont tenues par le gouvernement. Elles.
Sur la Centrafrique aujourd'hui, vous direz que c'est un État qui a échoué déjà ou encore?
L'administration a complètement disparu de la Centrafrique, donc c'est maintenant un territoire à prendre. Et l'arrivée des Russes illustre ça. C'est un territoire qui a été pris par des seigneurs de guerre à partir de 2013. Maintenant, il intéresse un peu les Chinois, il intéresse aussi les Russes. C'est un environnement à haut risque, mais qui est une sorte de terre pour flibustiers et aventuriers qui veulent s'enrichir rapidement, le gouvernement étant purement virtuel et les Nations Unies ne contrôlant évidemment pas grand-chose.
C'était Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI.
Jacques Aristide avec vous, c'est un Washington Forum spécial Mali que VOA Afrique vous propose ce jeudi à partir du studio de notre station partenaire Africable Télévision à Bamako. Sur place, les invités pour faire le point sur l'élection présidentielle. Alors que les Maliens attendent toujours les résultats ce mercredi, il s'agit d'un scrutin qualifié de crucial. Pensez-vous que les Maliens accepteront l'issue, quelle qu'elle soit? D'après vous, quels sont les grands chantiers du prochain président, notamment sur les plans de la sécurité, de l'emploi et de la relance économique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En République du Congo, la Commission nationale de lutte contre la corruption a indexé lors de la publication de son rapport cette semaine le ministre des Hydrocarbures dans le détournement des fonds destinés à la construction du siège de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole. Le président de cette commission, Lamir Ngele, a appelé la justice à ouvrir des poursuites judiciaires. Le reportage à Brazzaville de notre correspondant Arsène Séverin.
La commission de lutte contre la corruption que dirige un ancien ministre n'est pas allée par quatre chemins pour dénoncer le détournement de quelques 700 millions de francs CFA destinés à la construction à Brazzaville du siège de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole. Et l'actuel ministre des hydrocarbures, Jean-Marc Tisser-Tikaya, a été épinglé. Le président de la commission nationale de lutte contre la corruption, Lamine Ngele.
Le ministre a été le donneur d'ordre. Cela veut dire que le ministre est coupable au même titre que le directeur de cabinet, au même titre que le conseiller financier. Maintenant, ces gens-là, ils ne sont pas jugés. Notre rôle, ce n'est pas de juger. Nous préparons le travail en amont, nous transmettons à M. le procureur de la République, nous sommes dessaisis du dossier. Là commence le travail de la justice. Des fonds de la CREF, des fonds réservés au paiement des pensions des fonctionnaires. Le montant s'élève à environ 9 milliards. Nous avons bouclé ce dossier, il est chez le procureur de la République.
Mais depuis que la commission publique ses rapports, le parquet de Brazzaville n'a pas encore ouvertement lancé de poursuites judiciaires. Roch Eloge Nzobo, coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et le développement.
Le procureur a l'obligation d'ouvrir une information judiciaire. S'il ne le fait pas, évidemment, ça voudra dire que cette commission, comme toutes les autres commissions, comme celle des droits de l'homme par exemple, ne sert à rien, juste pour la forme.
Pour l'analyste économique Augustin Benazo, la corruption est endémique au Congo. Elle touche tous les secteurs de la vie nationale et la justice devait sévir.
L'effectivité de la dépense au Congo n'est que de 30%. Voilà, c'est un problème. Voilà. Donc ça montre qu'il y a des faiblesses. Ça a un impact sur l'évolution des politiques publiques au niveau de notre pays. Et donc nous pensons que la Commission a travaillé. C'est bien. Nous les félicitons, les remercions. Mais ce n'est pas suffisant.
Au Parti congolais du travail, le parti présidentiel, la préoccupation sur la corruption est palpable, mais aucune action n'est engagée. Serge-Michel Ozoku, le porte-parole du PCT, dit qu'il n'y a pas de preuves pour s'attaquer aux membres de son parti.
Nous avons fait des déclarations qui sont peut-être des déclarations, mais qui sont des professions de foi où nous avons dit tous ceux qui sont coupables, eh bien, ils devront répondre de leurs actes, mais il y a la justice qui est là pour connaître de ces faits et dire le droit.
En négociation avec le Congo, le FMI avait clairement appelé les autorités à donner des signaux forts dans la lutte contre la corruption et la pratique de la bonne gouvernance. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Rwanda, l'entreprise Babil Healthcare s'est investie dans le système médical avec une application smartphone qui a désormais plus de 2 millions d'utilisateurs. Selon la compagnie, cette solution a pour but d'alléger le fardeau des médecins, réduire le temps d'attente dans les cliniques et de faciliter l'accès aux soins pour les habitants des zones rurales. Lily Herling nous en dit plus sur cette initiative.
Des cliniques isolées, des longues heures d'attente, des médecins surchargés. Babil propose une solution, une application smartphone lancée en 2016 qui peut diagnostiquer les maladies, générer des ordonnances et sauvegarder l'historique médical des patients. Pour Patrick Singa, directeur médical de Babel Health, l'appli sert surtout à une population rurale.
Entre 80 et 90% de nos clients actuels viennent des zones rurales, pas de la ville. Je pense que c'est parce que dans la ville, les gens ont accès aux services médicaux. Ce produit est plus important pour ceux qui n'en ont pas accès, c'est-à-dire les habitants des zones rurales.
En ville aussi, l'application a ses avantages. Dans la banlieue de Kigali, Nadine Mounezero utilise son smartphone pour récupérer ses médicaments.
Une consultation Babil a beaucoup d'avantages. Vous ne payez pas tous les frais parce que vous utilisez votre portable et vous ne gaspillez pas des heures à faire la queue comme les autres. Vous venez chercher vos médicaments et vous vaquez à vos occupations. C'est vraiment un grand avantage et une méthode intelligente.
Le Royal College of General Practitioners, l'organisme officiel des médecins généralistes au Royaume-Uni, prévient que si l'intelligence artificielle a de la valeur, elle ne pourra pas fournir le même niveau de soins qu'un médecin humain. Patrick Singa affirme qu'il ne compte pas remplacer les médecins, mais collaborer avec eux.
Pour nous, l'intelligence artificielle est un outil que l'on donne aux médecins pour le rendre plus puissant. C'est comme ça qu'on le voit. On n'est pas là pour remplacer les médecins, mais pour augmenter leurs capacités et améliorer le travail qu'ils font déjà.
Les patients qui n'ont pas de smartphone peuvent également contacter le centre d'appel situé à Kigali, où les infirmiers effectuent plus de 800 consultations par jour, grâce aux questions rédigées sur l'appli. Avec ce système, Babil ambitionne d'améliorer le service sanitaire au Rwanda, tandis que son entreprise sœur anglaise, Babylon Health, a déjà des projets en cours en Chine, aux États-Unis et au Moyen-Orient.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Enfin, en Guinée, la filière de la friperie a explosé ces dernières années. Devant la très faible présence de l'industrie textile locale, les vêtements d'occasion importés d'Europe, d'Asie et des Amériques ont vite conquis les consommateurs et restent les plus utilisés par la majorité des Guinéens dans la capitale. Le succès de la friperie n'est pas sans conséquence sur les productions locales. Les couturiers guinéens mettent en cause la vente des vêtements de seconde main importés pour expliquer la baisse de leur chiffre d'affaires. Zakaria Kamara.
À Madina, le plus grand marché de Conakry, le commerce de vieux vêtements reste l'une des activités qui attire plus de visiteurs. Certains acheteurs expliquent leur choix par le prix à la bourse des plus pauvres et pour d'autres, c'est une occasion de se mettre à la mode internationale.
Si tu as 50, tu peux trouver plus de 10 ou 5 complets comme ça. Je l'achète pour un plaisir, le mettre pour sortir.
Namori a commencé la vente des friperies après l'université. Il n'a connu que cette activité. Détaillant au départ, ce jeune est devenu l'un des importateurs de vêtements d'occasion.
À l'époque, on est venu tirer les rails et tout a commencé à partir de là-bas. On est resté dans ça, là, dans les détails. Finalement aussi, j'ai adhéré au groupe d'importateurs.
Dans son magasin, seulement quelques ballots de friperie attendent des acheteurs qui viennent de partout en Guinée. Mais si ce commerce est florissant, les détaillants n'ont aucun contrôle sur la qualité et la quantité de leurs approvisionnements. Des facteurs qui dépendent des cycles de consommation des pays de départ. C'est Kusuma, détaillant.
Deux fois, ils envoient des bonnes qualités. Mais deux fois, quand tu achètes des balles, ça trouve que la qualité n'est pas bonne.
La friperie permet aux plus pauvres de s'habiller à moindre frais, mais elle a aussi favorisé la diffusion des valeurs occidentales. La Guinée manque de véritable industrie du textile local et les couturiers et autres semblent impuissants devant l'expansion du vêtement d'occasion importé. Alpha O, styliste.
Il faut que l'Afrique enrichisse l'Afrique. Il faut que la Guinée enrichisse la Guinée. Au lieu d'aller acheter de la friperie, il est temps maintenant que nous commençons à acheter nos propres produits et à vendre nos propres produits ailleurs. Il est temps que nous pensons à créer de l'emploi. Et la création de l'emploi, ce serait au moins de concentrer 70% de nos vêtements par des vêtements qui viennent de chez les couturiers, de chez les stylistes ou les tailleurs. C'est quelque chose qui est très intéressant et c'est une chose qui peut aider beaucoup l'Afrique, surtout la Guinée. Parce que sans ça, les jeunes stylistes ne vont pas vivre.
Les clients ne se bousculent pas à la porte des ateliers de couture. Face à la faible demande, Maître Ibro, styliste, propose une solution.
Si à la maîtrise de ton travail, c'est ça que ça va marcher. Surtout les pan-africains que nous, on travaille. Parce qu'on ne peut pas avoir les pan-africains en friperie. Hein.
Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Nachou Al-Khaleh, Abdourahmane Dia, à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Restez en compagnie des programmes de VO Afrique. Au revoir.
VOA Afrique.